Vous écoutez France Culture. À voix nue. Ce soir encore, Jean-Michel Dian rencontre Dominique Rocheteau. Aujourd'hui, une vie après le foot.
Dominique Rocheteau, comment on pense à sa reconversion quand on est footballeur professionnel, qu'on a 30 ans, une belle carrière? Est-ce qu'on a des plans, des stratégies qui se mettent en place très en amont de ce jubilé dont on a parlé hier soir?
Alors, je pense que maintenant, les joueurs sont quand même préparés à ça, parce que justement, ça, c'est le bon côté, je dirais, des conseillers et des agents. Entre guillemets, il y en a des bons quand même, qui peuvent aussi bien les conseiller et qui peuvent les préparer à leur reconversion. Mais nous, dans les années 80, fin des années 80 aussi, franchement, moi j'ai pensé à ma reconversion, j'ai pensé vraiment peut-être la dernière année avant que j'arrête, quoi. Parce que je n'étais pas dans cette réflexion. Je pensais que ça allait durer, et puis à un moment tu te dis, bon maintenant ça va s'arrêter. Et c'est vrai que tu n'es pas forcément toujours bien super conseillé, parce qu'on n'avait pas d'agent, on n'avait pas de... Voilà, quand je me suis arrêté, c'est vrai que pour moi, ça a été une vraie cassure, quoi. C'est un grand mot, mais une fin de vie, mais tu recommences une autre vie, en fait, ouais. Complètement. Tu recommences une autre vie, parce que quand tu es footballeur professionnel et que tu vis des moments comme ça... intense, et puis que ça continue. Tu penses que ça va jamais s'arrêter, mais en fait, que ça s'arrête net, et puis ça s'arrête jeune. Tu es jeune quand ça s'arrête. Donc, et maintenant...
Qu'est-ce que je fais ?
Qu'est-ce que je fais ? Et à 33, à 34 ans. Donc, c'était un moment un peu difficile, j'avoue, Donc je me suis, moi, au bout d'un certain temps, après réflexion, je me suis justement lancé dans cette carrière d'agent, parce que je me suis dit, ça manque quand même aux joueurs.
Mais parce que vous espériez changer les ouais. modalités de rapport
avec une certaine philosophie, ouais.
C'est très idéaliste, déjà.
Ouais, plutôt, oui.
Et puis c'est la
décision. Idéaliste et un peu naïf, quand même, mais bon.
Et vous créez Ecosport avec un ami,
ouais.
Donc une société d'agents,
voilà.
De footballeurs.
Voilà. Pour rendre des services aux joueurs.
Pour rendre des services aux joueurs, et là, vous êtes...
Et pour conseiller les joueurs sur leur carrière, voilà. Donc,
vu
mes connaissances, j'arrive à travailler avec pas mal de jeunes joueurs, puis des joueurs que j'ai côtoyés. Et puis, au fur et à mesure, je tombe de haut, parce que c'est un monde sans pitié, quoi, voilà, sans pitié, c'est-à-dire que c'est des... Après, c'est le monde de l'argent, sur les transferts, j'arrive au moment où Tapie commence à avoir
une emprise
très imposant dans le milieu du football français. Il y a Lagardère aussi qui arrive au Matra Racing, où l'argent commence à arriver et où le football change complètement, quoi. Et bon, voilà. Et donc moi, je suis vraiment très loin de ce monde-là. Et ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. Sincèrement, moi, ce métier, j'ai essayé de le faire par philosophie pour aider vraiment les joueurs, quoi. Pour aider et pour j'essayais justement de travailler avec des jeunes joueurs pour les accompagner pendant leur carrière, mais discuter des transferts, discuter des c'était pas mon truc, ça me plaisait pas. Donc ce moment où on est peu d'agents, en fait. Il y a quand même commencé à y en avoir pas mal d'agents qui arrivent justement dans ce milieu. Et c'est voilà.
Et c'est vous qui décidez d'arrêter, en fait.
Oui, parce que on signe des contrats, mais les contrats sont pas respectés. Enfin bon, voilà, Donc j'arrête.
C'est la jungle.
C'est la jungle. J'ai...
Et ça, vous n'aimez pas ?
J'ai un problème aussi avec un joueur. Mais bon, on se revoit, il n'y a pas eu de problème. David Ginola, qui était un de mes joueurs aussi à
donc
l'époque.
Donc vous êtes occupé ?
Oui. Mmh. J'étais occupé du transfert, son transfert de Brest au PSG. Et à l'époque, j'étais sollicité pas mal. Et grosse sollicitation par Bernard Tapie, qui voulait à Marseille. Mais bon, il était venu au PSG, donc voilà, j'ai eu quelques difficultés avec justement avec Tapie, avec Marseille. Et donc c'était pas simple. Pas simple. Voilà, et donc j'arrête. J'arrête au bout de 2 ans et demi, 3 ans. J'arrête ce métier qui me plaît pas du tout. Là, mais quand même, quelque part, bah, c'est une expérience, quoi.
Ouais,
toutes les expériences sont, même si quand elles sont négatives, toute expérience est bonne quand tu...
Et là, le hasard des rencontres, puisque vous pariez sur les rencontres, vous aimez les rencontres, ce qui est une manière, effectivement, de gérer sa vie autrement. Et là, vous recevez un coup de fil d'un cinéaste qui vous demande de jouer dans un film.
Et oui. Vous avez je fais plein d'autres choses aussi à côté.
À côté,
d'événementiel, d'édition.
Peu importe, il y a un moment donné où l'idée d'une carrière dans le domaine du cinéma pouvait éventuellement exister.
Moi, j'aime le cinéma. Je suis cinéphile, donc j'adore le cinéma.
Comment ça s'est passé ?
Le hasard des rencontres. Quoi. C'est vrai que une soirée où je rencontre Depardieu. On discute un peu, et puis lui, bon, voilà, et puis, je sais pas, quelques jours après, il me recontacte, et il me dit, bah tiens, ça te dirait de venir faire un petit bout de film avec nous j'en parlais à Maurice Fiala, et tout, on va tourner son prochain film, Le Garçu, on cherche le deuxième rôle, et tout, et je te vois, voilà, quoi. Je dis, j'en parle à Maurice, et il me dit, j'en parle à Maurice, et il va t'appeler, tu vois. J'ai dit bon.
Vous n'y avez pas cru
ou
vous
y Si, si, cru si, bah aussi, quand même, Depardieu qui t'appelle. Mais, et puis, donc contact avec Maurice Pialat, qui m'appelle aussi, qui me dit j'aime bien le foot, mais je préfère Didier Six que vous.
Enfin, tout Didier ça. Fix, qui était Didier déjà connu à l'époque. Ouais.
Mais,
un grand joueur de foot.
Donc on se voit, voilà, il me donne un rendez-vous et puis il me fait faire un essai, en fait. Voilà, il me fait faire un essai.
Le rôle de Jeannot.
Non, sur le rôle de Jeannot, oui, ouais, mais l'essai, il se fait sur le texte d'un de ses films, d'un Police, je crois. Enfin bon, voilà. Et bah, j'obtiens le rôle.
Après, alors vous qui êtes d'un naturel timide.
Sincèrement, je à l'époque, j'avais réfléchi, quoi. J'avais beaucoup hésité. Parce que je me sentais pas capable de faire ça, quoi.
Alors, d'autant plus que Maurice Pialat vous a laissé quand même une liberté de manœuvre, de ton, de texte.
Je pense avoir. Enfin, réussi, c'est un grand mot, mais avoir. Comment dire. J'ai pris aussi un peu de plaisir quand même. C'était sympa, même si c'était pas évident avec Maurice Pialat quand même. Même si il ne m'a pas considéré comme un acteur, donc ça va, il était sympa avec moi, il avait de bonnes relations, mais avec les acteurs, ce n'était pas évident, lui, il avait quand même des relations assez conflictuelles avec les actrices, il y avait quand même des gueulantes, des bonnes gueulantes pendant le tournage. Ce n'était pas évident, mais c'était
plus
super.
Plus que sur les terrains de foot, dans les préparations des matchs et tout, différent.
C'était vachement enrichissant. Puis tourner avec Depardieu qui était hyper sympa. Voilà, la première scène que je tourne, j'ai pas de texte, donc c'est vachement bien. J'ai pas de texte. Et puis je suis avec Depardieu qui est à côté de moi. T'as toute l'équipe là, de 30 personnes qui va te filmer, quoi, et tu sais pas ce que tu vas dire. Et puis t'as Depardieu à côté qui me dit t'inquiète pas, on va se débrouiller. Et tout. Enfin, bon, ça, c'était ça, Pialat, quoi.
Mais c'est vrai que vous avez tout improvisé, alors.
Ah, j'ai improvisé, pas tout, non, mais la première scène, oui. La première scène, on improvise.
Et vous étiez...
Mais c'est peut-être voulu pour que je sois plus naturel.
Pour vous tester, pour vous provoquer un petit peu. Et quand vous êtes regardé, vous, dans le film, je sais que vous n'aimez pas regarder votre propre film, mais vous avez été certainement obligé de le faire.
J'étais obligé. J'étais obligé d'aller à la première.
Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Vous êtes dit, finalement, je ne suis pas si mauvais que ça ?
Ouais, ça allait. Bon.
Et là,
mais bon, j'avais trouvé que c'était finalement pas si difficile que ça, quoi. Mais à partir du moment où on te met dans une ambiance où on fait tout pour que tu sois naturel, quoi, parce que moi, c'est ce qui me demandait, d'être naturel, parce que je ne suis pas un acteur.
Mais c'est parce que vous jouez Dominique Rocheteau ou vous jouez naturellement, vous jouez sans...
Ah, là, je ne jouais pas Dominique Rocheteau, j'ai joué un autre rôle dans un autre film.
Dans un autre film,
où je jouais Dominique Rocheteau, mais il n'est pas là.
Il n'est pas là. Vous êtes nature. Et puis,
ouais, c'est ce que veut dire Piala. Piala, c'est... je me rappelle à la fin du film, il avait dit, bon, bah, le prochain film, je te ferai appel à toi. Bon. Malheureusement, il est décédé un peu plus tard.
Et là, l'idée de faire une carrière cinématographique vous a traversé l'esprit ? Pas du tout.
Non. Non, non, mais bon, c'est sur des coups de cœur comme ça. Puis voilà, c'est un aparté, quoi. Un aparté dans ma vie, mais j'étais hors de... pas question.
Pourtant, vous avez...
Depardieu m'avait dit, putain, mais tu... Vas-y, lance-toi dans cette carrière, tu verras, le cinéma, c'est super, c'est facile, on gagne du fric. C'est un peu ça, le pain.
Et vous avez joué aussi avec Catherine Deneuve, non ?
J'ai fait quelques...
film d'Emmanuel Berco.
Oui, mais bon, là, j'en retiens pas grand-chose, parce que c'est une scène, en fait, la scène n'a pas été retenue dans le film. Bon, voilà.
Bon, pas de regrets.
Non. J'ai joué un film de Maurice Barthélémy aussi. Ouais, voilà.
Retour au foot. Dans la reconversion, on vous invite à présider, quelques années plus tard, le comité national d'éthique du football français. Pourquoi on a créé ce comité d'éthique ? Pourquoi on vous l'a confié ? C'était quoi votre travail à cette époque-là ? Vous êtes resté, je crois, 6 ans ?
7-8 ans, oui.
7-8 ans, même.
C'était un peu pour mettre un peu le... Comment dire ? La bonne conscience du football français, en gros. Bonne conscience, c'est ce que je
donc
dirais.
Donc vous étiez conscient d'être l'otage de cette bonne conscience ?
C'était un peu ça. C'était un peu ça, parce qu'au départ, alors, bon, il y avait des bonnes personnes dans ce comité d'éthique, des gens certaines réflexions, certaines sagesses, mais on n'avait pas un pouvoir énorme sur le football, surtout sur le football professionnel. On a plus travaillé sur le football amateur, qui était plus à l'écoute, parce qu'il y avait l'éthique, pour eux, c'était important. Au niveau du football professionnel, on était plus des censeurs qu'autre chose, quoi.
Qu'est-ce que vous avez pu changer par rapport à cette violence
sur les stades
qui était constatée par tout le monde ?
Je ne sais pas, mais je pense que ça a été bénéfique. Elle continue, cette commission d'éthique, mais... Ce qui était plutôt bénéfique, c'est qu'on a fait des petits, puisqu'on a eu des comités, des commissions, ou des commissions, ou des conseils d'éthique dans toutes les régions, dans les lits, dans les districts. Donc ça, c'est nous qui l'avons créé au fur et à mesure. Donc ça a plutôt été bénéfique, voilà. Après, on avait un pouvoir disciplinaire, mais qui n'était pas... Bon, je pense qu'il y a eu des bonnes décisions qui ont été prises. Mais un coup, on avait le pouvoir disciplinaire, qu'on ne l'avait pas. Enfin bon, c'était pas très, très, très évident. Et d'ailleurs, cette commission d'éthique, elle existe encore. Elle n'a pas un pouvoir énorme.
Mais vous avez le souvenir d'avoir pris une décision qui est toujours respectée ou d'avoir eu à trancher dans un conflit particulier qui est resté ou qui a
non,
fait l'objet d'une jurisprudence ?
Sur le plan disciplinaire, il y a eu des décisions de prise, mais bon... moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est quand on allait sur le terrain, quand on allait parler du respect au niveau des jeunes, du football amateur, là, oui, là, c'était intéressant, je pense que c'était bénéfique, quoi, c'était positif, parce qu'en tant que président du conseil éthique, moi, pour moi, c'était plus important d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre du football amateur, des jeunes, des dirigeants, plutôt que de sanctionner un tel ou un tel, quoi.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au football professionnel pour retrouver cet esprit des valeurs qui l'animaient dans les années où vous jouiez ? Qu'est-ce qui manque ?
C'est pas une question qui manque, c'est que c'est pas uniquement dans le football, c'est aussi dans le rugby maintenant, parce que le rugby se professionnalise, c'est dans le basket, enfin, c'est dans tous les sports, c'est dans beaucoup de domaines. C'est l'argent, voilà, c'est tout. Il y a les enjeux.
Il y a trop d'argent dans le football ?
Ah oui, enfin trop, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Il y a énormément d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Trop d'enjeux, tu souvent le plaisir, quoi. Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je ne veux pas être trop critique non plus, parce que bah, moi, je défendrai toujours mon sport, c'est normal. Puis en plus, je suis redevenu actif dans le football, puisque depuis que je suis revenu à Saint-Étienne. Donc, je vois le football différemment maintenant, c'est sûr.
Comment s'est opéré ce retour, non pas aux sources, mais presque, à Saint-Étienne aujourd'hui, où vous êtes coordinateur sportif ?
De toute façon, retour dans un club, ça,
Dominique Rocheteau.
J'ai jamais été à la recherche de ça, même si, quand même, quelque part, j'avais passé mes diplômes de manager il y a quelques années. Donc, inconsciemment, c'était peut-être aussi pour revenir justement dans un club. Bon, j'ai eu cette opportunité il y a 4 ans, mais je me voyais. Moi, le seul club où je me voyais revenir, c'était Saint-Étienne, quoi.
Pas le PSG.
J'en voyais pas d'autres. Bah, pas le PSG. Le PSG, oui, pourquoi pas, parce que j'ai quand même eu. J'aime ce club. Mais PSG.
Vous aimez Paris, vous avez même été consulté pour créer une deuxième équipe. Je ne veux pas être
critique, je suis supporter du PSG quand même. Mais le PSG actuel, non, je ne le conçois pas.
C'est pas le même.
C'est pas le même.
C'est pas votre esprit.
Non. Même si j'apprécie beaucoup l'équipe là, actuellement.
Ou les joueurs, certains joueurs.
Les joueurs qui sont des véritables artistes, qui produisent un beau jeu, qui font un beau spectacle. Bien sûr, ça, je préfère être à Saint-Étienne.
Alors, ce qu'on sait peu, c'est votre intérêt ou votre passion pour continuer à former des jeunes en dehors de tout engagement financier ou statutaire. Vous avez créé une petite équipe de foot, une grande équipe maintenant à Ho Chi Minh, où vous aidez des jeunes vietnamiens.
Là, c'est du social, je dirais. C'est plus du social, oui.
Mais social, c'est du foot quand même.
Mais c'est du foot, bien sûr. C'est une académie.
En Charente également, je crois.
En Charente, pendant 10 ans, j'ai créé des stages de foot pour c'était du loisir là, pour les jeunes. C'était plus du loisir. C'était pas pour former des joueurs professionnels. C'était pour puisqu'il y avait des jeunes joueurs de tous les niveaux qui venaient, et puis il y avait même des jeunes handicapés aussi qui venaient aussi dans ces stages. Et ça, j'ai vécu vraiment des très grands moments. Mais et à Ho Chi Minh, bah, c'était pareil, sur une rencontre avec un ami vietnamien et qui voulait développer le football dans son pays. Et on a créé une académie pour les. Mais là, c'est plutôt du social. Là.
Et là, vous y allez régulièrement ?
Oui. J'y retourne bientôt, dans l'été.
Ces passions qui vous animaient jeune, hein, la musique, l'engagement politique, l'idée d'un certain esprit civique, vous les avez toujours ? Vous les avez encore ?
J'espère. Oui, bien sûr. Ah oui. Oh, ben, je les aurai jusqu'à la fin de ma vie, parce que voilà. Mais ça, je pense que c'est ancré, et puis c'est une question d'éducation. C'est l'éducation au départ, je crois. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Mais vous qui êtes un observateur très privilégié du football, je reviens un peu à ma question, je suis un peu frustré de ne pas en savoir un peu plus sur cette évolution, quand vous constatez quand même peut-être plus de violence sur les stades qu'avant, peut-être plus de rigidité et moins de souplesse, en tout cas dans la manière de vivre un club. Vous n'avez pas envie de partager ça et de changer ça ? Est-ce que c'est encore possible de le faire ?
Ah, mais tous les jours, j'essaie de faire passer des messages par rapport à l'expérience que j'ai vécue, par rapport à mon histoire. J'essaie de faire passer des messages, alors plus bien sûr aux jeunes joueurs qu'aux joueurs confirmés, professionnels, même si je les côtoie. Mais bon, là, il y a plus, avec les jeunes joueurs, on peut faire plus facilement passer des messages. Mais voilà, moi je suis pas trop. En étant revenu ici à Saint-Étienne, après pas mal d'années, j'ai pas été très. Comment dire. Je suis plutôt assez positif, assez optimiste, parce que le football a évolué dans un certain sens, comme je vous l'ai dit. C'est vrai, il y a le football business qui existe, mais il y a aussi encore, heureusement. Il y a des milliers de jeunes joueurs qui jouent tous les dimanches sur les stades. Ça reste quand même un sport populaire, où des gamins aussi continuent à pratiquer ce jeu et continuent à se faire plaisir. Bon, il y a tout ça aussi. Il y a tout l'aspect positif du football qui fait qui fait que moi, bah, ça me fait avancer, quoi, bien sûr.
Qu'est-ce que la télévision a changé radicalement dans le jeu, dans le foot, l'esprit du foot aujourd'hui ?
La médiatisation.
Systématique, les contraintes qu'impose la télévision pour jouer, est-ce que...
Maintenant, c'est... Oui, c'est vrai que... Mais, y a... mais encore une fois, il n'y a pas que dans le football. Mais c'est... Dans le sport, par exemple, sans les droits de télé, le sport n'existerait pratiquement plus. Enfin bon... Dans les grands sports, que ce soit la Formule 1, le basket et le football encore plus, puisque dans un budget d'un club de football, les droits télé, c'est 50% voire plus parfois. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de décision. C'est les médias maintenant qui ont le pouvoir de décision, bien sûr. Ça c'est ce qui a changé aussi.
Dans les jeunes joueurs, Dominique Rocheteau qui évolue aujourd'hui sur les terrains. Est-ce que vous trouvez des héritiers, vos héritiers, dans le jeu, dans cette manière de dribbler, de cette manière de marquer des buts, dans cet esprit qui vous caractérise ?
Héritier, il y en a plein de jeunes joueurs maintenant, moi je les côtoie, là. Il y en a des très bons d'ailleurs. On essaie de trouver les meilleurs, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et bah, la majorité... comme ça, c'est la vie. La majorité, ils m'ont pas vu jouer. Hein. Donc, on ne veut pas parler d'héritier. Ils ont peut-être vu des images, mais bon. Ou leur père ou leurs parents leur en ont parlé. Mais eux, ils s'identifient plus à leur génération. Voilà, puis c'est comme ça.
Et cette Coupe du Monde, cette année, en 2014, que joue la France, au Brésil, comment vous la percevez ? Est-ce que vous trouvez que l'équipe de France... peut gagner ? Est-ce qu'elle a l'ossature pour faire rêver ?
C'est le rêve de tout footballeur de jouer une Coupe du Monde au Brésil. J'aurais aimé jouer cette Coupe du Monde 2014, ça c'est sûr. Donc j'espère que tous les joueurs français qui vont être sélectionnés dans cette équipe de France auront conscience de ça, quoi. Ils vont avoir cette chance-là, quoi. Jouer une Coupe du Monde au Brésil dans le plus grand pays de football. Puis c'est le football et la musique là-bas, c'est... Bon. Bon, il n'y a pas que des choses bien au Brésil, hein, ça c'est sûr. Mais c'est fabuleux. Donc j'espère qu'ils ont conscience, je pense. Et puis à partir de ce moment-là, bah, tout peut arriver, bien sûr. C'est une Coupe du Monde, c'est une compétition sur 2 mois. Il y a la préparation pendant 1 mois, puis il y a la Coupe du Monde qui dure 1 mois. Il faut être présent au bon moment. Alors, il y aura des équipes qui seront favorites, bien sûr, notamment le Brésil qui va jouer chez elle, et l'Argentine qui sera à côté. Enfin, pour moi, c'est les deux équipes qui seront les favorites. Mais après, l'équipe de France peut très bien tirer son épingle du jeu parce qu'on a des grands joueurs dans cette équipe. Bien sûr.
Qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'équipe de France, là ? Je ne parle pas du foot en général, mais de l'équipe de France entre la dernière que vous avez vécue au Mexique et celle d'aujourd'hui.
Pour le sélectionneur, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de, je pense. Mais c'est pas une critique envers les joueurs, c'est comme ça, c'est beaucoup plus d'ego quoi chez les joueurs. Donc ils pensent beaucoup à leur carrière. Il y a les agents, tout ça qui sont derrière, qui les conseillent d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Donc pour le sélectionneur, c'est toute la difficulté de créer un véritable groupe, de créer une véritable équipe, de créer un véritable collectif de joueurs qui ont envie de jouer ensemble. C'est ça le plus difficile. Mais je pense que Deschamps peut être l'homme de la situation.
Vous avez dit à l'instant que l'ego était un problème pour gérer une équipe. Est-ce qu'ici même, vous avez ce type de problème ? Est-ce que c'est vraiment l'objet le plus difficile à gérer dans une équipe aujourd'hui ?
Oui, c'est pas moi qui le gère quand même, parce que bon, moi je suis coordinateur sportif dans le club, mais le véritable, bon, même si je côtoie les joueurs bien sûr, mais moi, je suis plus dans l'organisation, dans la personne qui fait passer ses messages et qui doit gérer tout ça, c'est l'entraîneur, quoi. C'est le manager, l'entraîneur qui est en relation avec ses joueurs au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il y arrive.
Le foot, c'est plus une question d'éducation que de répression et d'autorité. C'est...
Éducation, oui, complètement. Répression, autorité, non, surtout pas. Enfin, moi, c'est pas mes mots.
Pas vous, mais peut-être d'autres, non ?
Oh, j'espère que non. Bon, peut-être, mais bon. Et toujours, mais ça c'est normal, enfin je pense que c'est naturel, toujours avoir beaucoup de d'humilité, quoi, voilà, on sait, rien n'est jamais arrivé, donc quel que soit le niveau qu'on obtient, donc toujours avoir beaucoup d'humilité, ça c'est pour moi c'est le mot le plus important, l'humilité, quoi.
Un dernier mot, Dominique Rocheteau, pour terminer cette semaine ensemble autour du football et de cette Coupe du Monde. Le monde politique, c'est un monde qui ne vous est pas indifférent. Vous avez été séduit par des engagements politiques, vous avez été même séduit par François Mitterrand quand il était président de la République, je crois.
Que j'ai soutenu.
Voilà, vous l'avez soutenu publiquement, vous avez
premier mandat.
Été dans son comité.
Premier mandat. Avec Renault.
Mais pas le deuxième mandat.
Michel Bicoli. Comment ?
Mais pas le deuxième mandat.
Non.
C'est ça. Vous êtes déçu par la gauche ?
Oh, déçu par la politique en général, quoi. Je me sens moins concerné. Moins concerné par la politique.
Même aujourd'hui, voyez
je fais partie des,
du Front National.
Je fais partie des abstentionnistes, actuellement.
Mais ça vous contrarie de voir un monde politique qui n'arrive pas à s'épanouir comme vous le souhaitez ?
Non, mais c'est là où on perd un peu justement de ces illusions, voilà. Mais bon, on gagne en réalisme, heureusement. Mais quand on voit tout ce qui se passe autour de la politique, mais bon, je ne veux pas trop en parler, on n'est pas là pour ça, mais voilà, j'ai pas trop...
Et à vos enfants, vous leur transmettez quoi ? Sur cet esprit civique, sur cette manière de vivre ensemble, cette...
Ah ben, toutes les valeurs que j'ai en moi,
sur ces valeurs,
l'expérience, mais bon, mais plus sur un côté humaniste, c'est peut-être le mot, je sais pas. Mais la politique, ça me concerne beaucoup moins maintenant.
Merci Dominique Rocheteau de nous avoir reçus si bien sur vos terres à Saint-Étienne, au sein de ce centre d'entraînement que vous dirigez en partie en tout cas. Merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir.
C'était À Voix Nue. Fin de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Dominique Rocheteau. Prise de son Stéphane Caberlon. Réalisation Anne-Pascale Desvignes. Attachée d'émission Claire Poinsignon. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi sur France Culture, une nouvelle rencontre.